Europe 1. Bienvenue dans les interviews de Cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. C'était il y a 20 ans, en avril 2004, le puits de charbon de la Houve, en Moselle, fermait ses portes. Les pics et les pelles de la dernière mine en activité dans l'Hexagone se sont tus. Cette fermeture marque la fin de l'épopée du charbon en France, une histoire qui a profondément marqué son territoire et ses esprits. Mais pour comprendre comment le charbon a façonné les sociétés qui l'ont extrait, il faut regarder outre-Manche. C'est en Angleterre que le charbon a fait le plus grand étalage de sa puissance et de sa noirceur. S'il a permis au Royaume-Uni de devenir une puissance économique moderne, le charbon n'en reste pas moins une énergie polluante. Bien plus qu'un simple combustible, c'est un emblème de la révolution industrielle que nous allons disséquer aujourd'hui en compagnie de Charles-François Matisse, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment consacré un livre à la civilisation du charbon, paru aux éditions Vendémiaire. Bonjour Charles-François Matisse.
Bonjour.
Alors, posons un petit peu les bases à propos de la France. Nous, on est sorti du charbon il y a un moment. On se souvient du bassin houiller du Nord, de celui de Saint-Étienne. Mais au Royaume-Uni, où étaient les mines de charbon? Dans quelle région on les trouvait?
Alors, l'avantage du Royaume-Uni, c'est qu'elles sont un peu partout. Elles sont très bien réparties sur le territoire et en général aussi relativement proches de la mer, ce qui permettait de l'exploiter facilement. Donc, on en avait, à part dans le sud-est, on en avait donc un peu partout, particulièrement dans le nord-est du pays, autour de la région de Newcastle, qui était l'un des premiers grands producteurs de charbon et qui a approvisionné Londres, en fait, parce qu'on l'amenait par cabotage le long des côtes et on remontait ensuite la Tamise jusqu'à Londres. Ensuite, il y a de gros gisements dans le pays de Galles, là encore vers Cardiff, donc près de la mer, des gisements dans le Lancashire et le Yorkshire, autour de Manchester, Sheffield, etc. Et aussi dans les Midlands, dans une région qui s'appelle le Black Country, dont le nom est quand même assez symptomatique, en fait, évidemment, de ce que fait le charbon au paysage.
À partir de quand les Anglais ont commencé à extraire du charbon et qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Alors, ils l'ont extrait très tôt parce qu'on a des couches qui étaient affleurantes. Donc, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser ce combustible pour se chauffer. Donc, c'est la première utilisation. On en a des témoignages dès le Moyen-Âge, avec même des plaintes déjà au XIVe siècle et plus encore au XVIe siècle, à Londres, de riverains qui se plaignaient des fumées provoquées par la combustion du charbon. Donc, voilà, on l'utilise très tôt. Dès 1620, on considère que la moitié des besoins énergétiques du charbon du pays, sont assurés par le charbon.
Ce qui est déjà, très tôt.
Oui, c'est très tôt et c'est énorme. Mais à ce moment-là, c'est essentiellement, bien sûr, des besoins donc de chauffage individuel et un petit peu pour l'artisanat. Le grand essor, évidemment, de l'utilisation du charbon, c'est le XVIIIe siècle, avec les débuts de la révolution industrielle. Et là, pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'utilisation dans des machines à vapeur. Alors, la machine à vapeur s'impose pas tout de suite, elle met du temps, même au XIXe siècle, mais disons que progressivement, c'est elle qui va être l'une des principales utilisatrices de charbon, et notamment lorsqu'elle va mouvoir les locomotives. Évidemment, le chemin de fer va être central dans l'essor de l'usage du charbon.
On a tous l'image en tête du chauffeur de la locomotive avec son charbon derrière lui qui en met
exactement,
dans sa machine.
Voilà, oui. Le chauffagiste qui charge, oui. Donc ça, c'est un usage très important à partir des années 1830. Et puis, l'autre usage industriel important du charbon, c'est pour la métallurgie. Ça, on n'y pense pas toujours, mais on a inventé des procédés qui permettent de faire fondre donc du fer et de produire du métal à partir du charbon, en fait du coke plus précisément, dès le début du XVIIIe siècle, mais ça se massifie à la fin du XVIIIe, et c'est vraiment dans les années 1780 qu'on voit l'essor de la métallurgie sur la base du charbon. Et là encore, c'est une utilisation très importante de ce charbon. Et bien sûr, la consommation domestique se poursuit et même se généralise à partir des années, disons, 1830 à l'ensemble du pays.
Et à partir de 1900, on a une situation de quasi-monopole. Le charbon, ça représente 95% des besoins énergétiques du pays. C'est énorme.
C'est absolument énorme. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé, parce qu'on a, comme vous le dites, une situation de monopole et un pays qui est presque un espèce d'idéal ou de stéréotype de ce que peut être une utilisation presque exclusive d'une source d'énergie.
Donc, ils ont besoin en Angleterre de beaucoup de charbon et il s'avère qu'ils en ont plein sous les pieds. Il y a vraiment une campagne qui est mise en place pour exploiter tout ça, sonder les sols, savoir où sont toutes les mines?
Alors, pas une campagne spécifiquement, mais un intérêt bien sûr progressif pour la géologie qui émerge avec la révolution industrielle et la conscience que le charbon est essentiel pour le développement économique du pays. Donc, c'est vrai que la géologie, comme science, elle naît, disons, dans les années 1800-1830 et très clairement, clairement en perspective d'utiliser, enfin, d'exploration du charbon et pour essayer de mesurer un petit peu quels sont les filons. Et on a d'ailleurs un Geological Survey, un institut, disons, qui est chargé justement d'évaluer ce que contient le sol britannique, qui se crée dans les années 1830, je n'ai plus la date précise, et qui va contribuer justement à une meilleure connaissance, même si elle reste malgré tout encore imprécise jusqu'à la fin du 19e siècle, des sous-sols charbonniers du pays.
Et en 1851, il y a l'exposition universelle, c'est la toute première. Et est-ce que là, cette exposition qui est tournée vers la modernité montre une rupture entre une Angleterre d'avant et une Angleterre d'après, celle d'avant le charbon et celle qui s'ouvre avec la révolution industrielle ?
Alors elle le laisse voir, oui. Comme je le disais, on peut considérer vraiment que la rupture, à mon sens, elle se situe dans les années 1830 où on a conscience que le charbon devient le socle industriel du pays. Mais 1851, c'est l'affirmation au monde entier, en fait, de cette puissance du pays et de sa domination sur le monde. Et à ce moment-là, on profite bien sûr pour montrer que l'un des socles de cette puissance, c'est le charbon, et on installe autour du bâtiment du Crystal Palace, donc ce bâtiment de verre qui était un bâtiment magnifique et qui effectivement incarnait la modernité, on installe donc autour de ce bâtiment des blocs de charbon de plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes, le plus gros je crois faisait 24 tonnes, et qui bien sûr symbolisait pour les gens qui venaient visiter la force qui faisait bouger les machines qu'on pouvait voir à l'intérieur du palais.
J'ai des questions très naïves, hein, Charles-François Matisse, mais quels sont les avantages du charbon ? C'est pas cher, il y en a sur le territoire, c'est tout ? C'est juste ça ?
Alors c'est déjà pas mal, donc encore une fois, il y a une abondance de charbon dans le pays, facilement exploitable, plutôt de bonne qualité, très bien réparti. C'est une source d'énergie qui est d'une très grande densité et qui accroît considérablement la puissance des hommes sur le monde. Je crois qu'on ne mesure pas ce que signifie le passage à l'ère des fossiles au XIXe siècle. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour le monde entier, hein, et notamment l'Europe, on était contraint quand même dans sa dépense énergétique qui était liée aux énergies de flux, le soleil, la terre, l'eau. Et avec l'énergie de stock qu'est le charbon, tout d'un coup, l'humanité, et particulièrement les Anglais, a accès à une énergie accumulée pendant des millénaires. Et tout d'un coup, donc, l'humanité se dispose d'une force qu'elle n'a jamais eue auparavant. Elle peut concentrer dans des lieux une puissance énergétique absolument incroyable. Donc, on a une vraie fascination et un imaginaire incroyable de la puissance qui émerge à cette occasion-là.
J'ai encore une question naïve, un peu technique. Quelle est la différence entre brûler une bûche de bois et du charbon ? Pourquoi on n'a pas atteint la même chose avec le bois ?
Alors, le bois est moins... comment dire, à une moins grande densité énergétique. C'est-à-dire que vous brûlez une bûche, ce n'est pas la même quantité d'énergie qui va être libérée que lorsque vous brûlez un poids équivalent en charbon. Donc le charbon, en ce sens-là, comme le pétrole par la suite, a une force énergétique en quelque sorte qui est plus importante que celle du bois. Et puis bon, il y a une autre différence bien sûr, c'est que le bois se renouvelle, alors qu'encore une fois, le charbon, une fois que vous l'avez puisé, il n'en a plus.
D'ailleurs, comme vous le dites, il faut le puiser, ce charbon, et donc il y a un nouveau métier qui apparaît, c'est celui de mineur. Comment sont perçus les mineurs dans la société anglaise du 19e siècle ?
Alors, on a une perception assez ambiguë des mineurs. D'un côté, on a bien conscience que, encore une fois, cette civilisation qui émerge au 19e siècle, fondée sur le charbon, dépend de ces gens qui travaillent dans des conditions très dures, et donc on va les célébrer. Particulièrement lorsqu'il y a des catastrophes, et il y en a beaucoup, qui tuent parfois donc des centaines ou des milliers de personnes, enfin pas des milliers, un millier de personnes au maximum, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est bien largement suffisant bien sûr, mais et à l'occasion de ces catastrophes, on va voir dans la presse les gens dire « Ah là là, c'est terrible, ces mineurs se sacrifient », et c'est vraiment le mot « se sacrifient » pour le bien-être de la population, pour qu'on puisse avoir du chauffage chez soi, pour qu'on puisse dominer le monde. Donc à ce moment-là, la vision est plutôt positive, et on a d'ailleurs du coup des dons qui sont faits aux veuves des mineurs. En revanche, évidemment, lorsqu'ils font grève et qu'ils empêchent le charbon d'arriver dans les foyers, le regard change un petit peu et les mineurs ne s'en privent pas toujours et rappellent à quel point ils sont essentiels à la vie des Britanniques et au développement de leur industrie.
À quoi ça ressemble le travail à la mine à cette époque ?
C'est difficile. C'est vraiment un travail très, très, très dur. Il faut imaginer quand même, donc, encore une fois, la dangerosité déjà, alors qui est liée aux explosions, mais aussi aux effondrements, mais aussi aux maladies. Et les conditions de travail extrêmement difficiles, vous descendez quand même à des centaines de mètres de profond.
En profondeur.
Oui, donc c'est vraiment très profond. Et vous avez des galeries immenses aussi, qui peuvent faire aussi des kilomètres. Et donc, il y a un temps énorme pour arriver jusqu'au front de mine. Évidemment, il fait chaud, c'est humide. C'est l'Angleterre quand même, il pleut beaucoup, donc les sols sols sont humides. Quand vous êtes sur le front de mine, il faut creuser. Donc, vous êtes en général allongé sur le côté avec une pioche pour creuser. Donc, le front de mine est chargé du... obtenir du charbon. Mmh. On fait travailler des enfants jusque dans les années 1840, des enfants très petits parce qu'il fallait qu'ils puissent pousser les wagons remplis de charbon, ou d'autres, parfois, on a des témoignages d'enfants de 5-6 ans qui étaient assis dans la nuit pour ouvrir et fermer des portes parce qu'il fallait assurer un courant d'air pour éviter que le gaz ne s'accumule et risque l'explosion. Enfin bref, voilà, on a vraiment des conditions de travail qui sont terribles et qui sont rappelées justement par les mineurs et qui soudent beaucoup ces communautés. La communauté des mineurs est une communauté ouvrière un peu à part, très consciente à la fois, encore une fois, de son rôle central dans le monde britannique et aussi des conditions particulières de travail qu'elle expérimente.
Au bout de la course du charbon, il y a, pour partie, les foyers des Anglais, des Londoniens. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée du charbon dans la vie des gens ?
Alors, ça change pas mal de choses. D'abord, ça permet donc de se chauffer plutôt bien. Et ça crée un idéal, celui de ce fameux feu de cheminée dans une cheminée ouverte qu'on trouve au départ partout et puis de plus en plus surtout dans le living room, dans le salon, et sans lequel le home sweet home n'existerait pas. On a vraiment un imaginaire et c'est très frappant de constater à quel point il est durable, qui émerge donc dans ces années, enfin à la fin du 18e, début du 19e, et qui va se perpétuer jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est très rare de voir comme ça une espèce de trait culturel qui se maintient pendant plus d'un siècle, et qui fait que se détacher de ce feu de cheminée dans une cheminée ouverte au charbon est très très difficile. Donc ça apporte cela, mais ça apporte aussi bien sûr beaucoup de saleté dans les intérieurs et beaucoup de pollution dans les villes.
C'est-à-dire qu'il sort de la cheminée ou du poêle une espèce de suie qui flotte dans l'air et qui se dépose partout, c'est un enfer.
Ah, c'est un enfer. Il y a beaucoup donc effectivement de poussière qui s'installe dans les maisons et qui est une poussière en plus donc de suie, donc un peu grasse, qu'il faut nettoyer sans cesse et qui rend folle les femmes au foyer.
Donc ça impacte la vie des femmes, mais en mal.
Ah ben terriblement, parce que les femmes sont vraiment les vestales, c'est-à-dire c'est elles qui s'occupent, les gardiennes du feu, exactement. C'est elles qui s'occupent non seulement de commander le charbon, mais ensuite d'aller le chercher à la cave ou dans le cagibi pour l'amener à la cheminée. C'est elles qui doivent apprendre à faire un feu de cheminée, ce qui n'a rien d'évident. C'est elles qui doivent aussi apprendre à cuisiner avec des cuisinières à charbon, ce qui est encore moins évident. C'est elles ensuite qui doivent entretenir le feu et apprendre à le faire correctement, à essayer d'économiser le charbon parce que ça pèse quand même sur les finances du ménage. C'est elles qui doivent nettoyer ensuite l'âtre, et ça c'est très important parce que un âtre propre c'est le signe d'un foyer bien entretenu, enfin d'une maison
évidemment.
Bien entretenue, et voilà, et c'est terriblement difficile aussi, ça prend énormément de temps, et ensuite évidemment c'est encore une fois elles qui doivent nettoyer toute la maison, les rideaux qui sont pleins de poussière, donc c'est un vrai esclavagisme en quelque sorte. Et j'ai lu chez un collègue un témoignage assez touchant à Manchester d'une femme qui est devenue folle à vouloir justement nettoyer sans cesse et sans y parvenir, parce que c'est un travail évidemment incessant, et qui sortait de chez elle pour être emmenée dans un asile en se frottant les mains, nous dit-on, comme Lady Macbeth qui n'arrivait pas à enlever le sang de ses mains.
Ah oui.
Mais elle, c'est évidemment la suie qu'elle n'arrivait pas à nettoyer.
Donc on voit que c'est un cauchemar finalement, la chaleur du foyer coûte cher d'une certaine manière, mais ça pollue aussi énormément l'environnement. On parle du smog londonien, ça a des impacts sur la santé des gens ?
Oui, même si on n'en a pas tout de suite conscience, l'impact sur la santé est énorme. Alors d'abord, pour vous donner peut-être quelques chiffres, une notion un peu quantitative, disons, de cette pollution, on estime que dans les années 1920, par exemple, dans la ville de Newcastle, donc qui est une ville qui produit du charbon et qui en consomme beaucoup, pendant les mois d'hiver, 90 tonnes de charbon tombaient chaque mois par mile carré, donc à peu près 2,5 km². Les fumées de charbon et le brouillard, en fait, provoqué par ces fumées, couvraient, nous dit-on, à la fin du 19e siècle, un rayon de 75 km autour de Londres et d'une cinquantaine ou soixantaine de kilomètres autour de Manchester. Donc ça vous donne un peu une idée de ces flocons de suie, en fait, littéralement, qui tombaient sur l'environnement urbain des villes britanniques à cause de ce charbon. Et donc, en termes de santé, bien sûr que ça avait un impact. Alors, on imagine les nuisances respiratoires que ça pouvait créer, mais on ne les mesure, à ma connaissance, qu'à partir des années 1870. C'est en 1873, à l'occasion d'un grand brouillard, qui est un brouillard terrible, on ne voit plus à quelques mètres, les gens tombent dans la Tamise et se noient, il y a un hippopotame, oui c'est un hippopotame, je ne sais plus si c'est un hippopotame ou un rhinocéros, mais je crois que c'est l'hippopotame,
c'est une grosse bête.
Voilà, du zoo de Londres qui meurt asphyxié, enfin bref. Et à ce moment-là, le Times, pour la première fois, évalue le surcroît de décès de cette semaine-là par rapport à la même semaine les années précédentes. Et on estime les décès supplémentaires à 700 personnes quand même. Et progressivement, on va comme ça, statistiquement, disons, prouver la causalité. Mais par contre, d'un point de vue médical, cette causalité tarde à être vraiment acceptée par les autorités.
Acceptée d'ailleurs, vous
voilà,
dites.
Voilà, exactement. Et il faut attendre évidemment le brouillard de 1952, donc 70 ans, pour que, ou 80 ans même, pour que les 12 000 morts provoquent enfin une réaction des autorités.
On consomme tellement de charbon en Angleterre, est-ce qu'on ne craint pas à certains moments d'en manquer? On se dit que c'est inépuisable?
Ah non, pas du tout. On a des craintes très très tôt. Dès 1789, c'est-à-dire dès le moment en fait où le charbon commence à devenir le socle de la puissance britannique, eh bien on a des alertes sur le fait qu'il pourra manquer un jour. Alors ce sont des alertes encore qui sont faites par des géologues et qui ne sont pas très diffusées, mais dans les années 1830-1840, c'est un thème public qui est débattu au Parlement et qui revient sans arrêt au cours du 19e siècle, quand est-ce qu'on va manquer de charbon. Et le grand tournant, c'est en 1865, il y a un jeune économiste qui veut faire un coup, qui s'appelle Stanley Jevons, qui publie un ouvrage qui s'appelle « La question du charbon », « The Coal Question », dans lequel il dit « Il nous reste 100 ans ». Et ensuite, c'est le déclin, c'est l'effondrement du pays. Et là, ça suscite encore une fois des débats au Parlement, des rapports parlementaires et de commissions royales qui rassurent et qui disent « Mais non, non, il nous en reste pour 1600 ans ». Donc on ne cesse d'osciller comme ça entre des évaluations très très différentes qui rassurent ou angoissent les contemporains.
Ils sont assez fantaisistes au fond, parce que s'ils ne se mettent pas d'accord avec une si grande fourchette, c'est qu'ils n'en savent pas grand-chose. En 1873, on parle de grande famine à propos du charbon. C'est bizarre d'associer ces deux termes.
C'est vrai. Alors c'est un événement assez exceptionnel. C'est une année où le charbon atteint des sommets en termes de prix. Jamais le charbon, pendant tout le siècle, n'aurait été aussi cher. Et c'est provoqué, alors pas par un manque en fait, mais par un décalage entre la production et la demande qui fait que les prix s'envolent. Et donc les prix sont tellement chers que ça suscite une terrible frayeur chez les populations qui craignent de manquer, d'où la grande famine, l'idée d'une grande famine, avec des manifestations de gens qui demandent une intervention des autorités. On a des témoignages sur le fait qu'en Écosse, par exemple, des foyers ne mangent plus cuit parce qu'ils ne peuvent plus se payer de charbon pour cuire leur nourriture. Donc on a pas mal de témoignages sur les souffrances terribles endurées par les populations les plus pauvres à l'occasion de cette famine, qui est très intéressante, je trouve, parce qu'elle... Elle amène donc notamment les classes populaires à demander donc cette intervention de l'État, donc à vouloir quitter l'idée du laisser-faire et à dire le charbon est un bien essentiel, il doit être, le prix doit être déterminé par l'État et ne pas être laissé au libre jeu de l'offre et la demande. Et en même temps, on a quelques intellectuels qui proposent pour la première fois une taxe carbone. C'est à ma connaissance la première fois qu'on propose de créer un impôt sur le charbon pour maintenir des prix élevés.
Et vous vous êtes fait plein d'amis chez les écolos depuis que vous en parlez, c'est ça?
Oui, un petit peu, même si j'aurais bien aimé en parler plus, mais j'ai pas trouvé beaucoup de sources pour le faire.
Donc, alors, le charbon est une énergie paradoxale, puisque d'un côté, elle permet à l'Angleterre de devenir une puissance industrielle, de battre des records, d'aller beaucoup plus loin dans l'inventivité et l'industrie. Mais d'un autre côté, le prix à payer, c'est la pollution, l'asservissement de la ménagère, les maladies. Comment l'Angleterre va-t-elle sortir de cette énergie et en trouver d'autres ?
Alors, il va y avoir des propositions, alors pas tant de nouvelles énergies que de nouveaux usages ou de nouveaux convertisseurs qui permettent de les utiliser. Évidemment, le pétrole, l'électricité, le gaz, même si l'électricité est produite essentiellement par des centrales à charbon, mais c'est un autre usage quand même, avec une combustion qui est plus centralisée que diffusée dans les différents foyers. Donc, ces énergies vont rentrer en concurrence avec les usages du charbon dès la fin du 19e siècle et surtout dans l'entre-deux-guerres. Mais pas toujours sur les mêmes points, c'est-à-dire que le gaz, par exemple, va s'imposer progressivement pour les cuisinières, l'électricité évidemment pour l'éclairage, le pétrole pour le transport, même si rien n'était gagné. Il faut bien imaginer que tous ces usages sont l'objet, encore une fois, de compétitions très très féroces et que rien n'était gagné. On aurait pu avoir des voitures, par exemple, fonctionnant au charbon ou à l'électricité. D'ailleurs, les premières voitures étaient des voitures électriques. La première Porsche était une voiture électrique.
Oh,
oui,
scoop.
Ça, oui, c'est un scoop. Enfin, je sais pas si c'est un scoop, mais en attendant, ça permet peut-être de changer un peu nos perspectives. Donc, il va y avoir ces propositions alternatives et bien sûr, les producteurs et distributeurs de charbon vont essayer de défendre ce qu'ils appellent la civilisation du charbon. Justement, ils vont utiliser ces mots, ils vont vouloir défendre cet usage. Mais donc, progressivement, il va y avoir donc ce combat dans l'entre-deux-guerres et puis vraiment, c'est à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale que, à partir plutôt des années 1850-1860, l'usage domestique du charbon va se réduire au profit d'autres modes de chauffage, même si, encore une fois, son usage dans les salons, lui, va se maintenir aussi longtemps que possible. Et puis, quand vraiment on ne pourra plus, on va le remplacer par des chauffages électriques qui ressemblent à des feux de cheminée, quelque chose d'absolument kitsch qu'on retrouve dans plein d'intérieurs britanniques dans les années 1960.
Mais oui, c'est vrai, mais même encore aujourd'hui, dans les hôtels un peu anciens de Londres, il y a des cheminées au gaz.
Et voilà, ah oui, tout à fait.
J'en ai vu. Donc en France, on fait fermer la dernière mine de charbon en 2004. Qu'en est-il au Royaume-Uni ?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats récemment. Normalement, la dernière mine a fermé en 2015, enfin la dernière mine en profondeur. En 2022, le gouvernement britannique a voulu autoriser la réouverture d'une mine dans la région de Cumbria, au nord-ouest du pays. La question est revenue en 2023 et encore débattue au Parlement, et on est encore là sur des hésitations entre ceux qui se défendent la réouverture de cette mine et ceux qui veulent maintenir évidemment l'interdiction de l'utilisation et la production de charbon. Donc on est encore un petit peu là sur un entre-deux, mais globalement, disons, voilà, depuis 2015, on n'a plus vraiment de production de charbon en Angleterre.
On arrive au terme de cet entretien et j'ai l'impression que cette civilisation du charbon appartient au passé un peu aujourd'hui. C'est une énergie vintage, on pourrait dire.
Alors c'était tout le problème justement des industriels du charbon qui ont voulu montrer dans l'entre-deux-guerres que c'était au contraire une énergie moderne. Non, en fait, le charbon, on a l'impression effectivement que c'est l'énergie du passé, mais c'est encore une énergie très présente en France. On n'a jamais, dans le monde, pardon, on n'a jamais autant brûlé de charbon dans le monde qu'aujourd'hui.
Ah oui ?
Oui, avec évidemment la Chine, l'Inde et même les États-Unis en partie. Donc le charbon est encore une énergie très contemporaine, hélas, puisque c'est une énergie extraordinairement polluante.
Je vous lance sur le nucléaire pour finir en une phrase.
Non.
Donc nous aurons cette discussion off. Merci beaucoup Charles-François Matisse. C'était absolument passionnant de revenir sur la civilisation du charbon, qui est un terme qu'on n'utilise pas au quotidien, mais qui en fait montre bien ce qu'était l'Angleterre et l'Europe au XIXe siècle. Je rappelle que votre livre « La civilisation du charbon en Angleterre du règne de Victoria à la Seconde Guerre mondiale » est paru aux éditions Vendémiaire. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Nathan Laporte et Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et moi, je vous retrouve tous les jours de la semaine en podcast sur votre plateforme préférée et chaque week-end sur Europe 1 à 15h. À bientôt.